Ce qu'on voulait, c'était de l'accès à l'hôpital, des traitements de substitution, des bus d'échange de seringues, des boutiques, de la réduction des risques.
Dans un texte publié il y a exactement 5 ans dans la revue Vacarme, 6 rédacteurs proposaient de moduler leurs arguments à propos de la légalisation des drogues. Il s'agit, entre autres, pour eux, je cite, de rappeler aux âmes les plus apeurées le danger des mafias et les statistiques indiscutables sur l'échec de toutes les politiques prohibitionnistes et autres guerres contre la drogue. Rappeler à ceux qui refusent d'user de drogues illégales mais usent et abusent des drogues légales qu'ils sont simplement un peu lâches ou en tout cas guère cohérents s'ils ne se soucient pas du sort de ceux qui sont encore pour le moment de l'autre côté de l'eau. Rappeler aux usagers de drogues dépendants et en souffrance qu'ils ne sont pas des parias et que leur voix politique compte autant que celle des autres. Rappeler aux adolescents que légaliser n'est pas valoriser. Effectivement, réapprendre en définitive à moduler ses arguments, c'est-à-dire réapprendre à faire de la politique. Ce qui n'a rien de révolutionnaire, mais n'est déjà pas si mal et peut laisser espérer de passer un jour à autre chose. Il est 14h passées de 2 minutes. Bienvenue dans une nouvelle série des Nouvelles Vagues. Le cristal, voilà comment s'appelle la drogue qu'un grand nombre de prostituées consomment à Tijuana, au Mexique. Ces femmes qui flottent entre terre et ciel, tandis que la substance leur ronge les neurones. Le réalisateur Jean-Charles Hu les appelle les Dames Blanches. Il rencontre la première en 2009, lors du tournage de son premier long métrage, Carne Viva.
J'ai découvert aussi en venant souvent à Tijuana qu'il y avait d'autres femmes comme elle, qui avaient cette faculté à être entre le ciel et la terre, et qu'en fait c'était pour la plupart toutes des anciennes prostituées, et qui étaient tombées dans le cristal.
On l'écoute vers 14h50. C'est le premier moment de notre chantier thématique consacré à la drogue. Nombreux journaux en faisaient mention ce matin. C'est aujourd'hui qu'ouvre officiellement la première salle de consommation à moindre risque dans le 10e arrondissement à Paris. 30 ans après l'ouverture d'une telle salle en Suisse et 30 ans environ après les premières mesures de mise en vente de libres seringues stériles en pharmacie en France en 1987 sur une proposition de Michel Barzac, à l'époque ministre de la Santé et à l'époque fortement critiquée. En avril 1994, quelques années plus tard, l'association APT ouvre un centre de soins de Bussy-le-Long et le projet était le traitement conjoint des dépendances à l'alcool et aux drogues dans le même lieu, dans les mêmes groupes de parole et avec la même approche clinique. Dans une bande dessinée auto-fictive, Vincent Bernière vous racontait la manière dont la parole s'y déploie dans ce château, parfois au bénéfice d'une future abstinence totale et durable, en mettant en scène le parcours de gens toxicomanes qui se droguaient précisément dans le quartier où l'on ouvre aujourd'hui cette salle de consommation. Alors nous allons croiser tous ces regards, ces époques et ces démarches aujourd'hui avec vous donc. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Le Château des Ruisseaux est publié aux éditions Dupuis. Il est co-signé, il faut le dire, puisque c'est très beau, avec Frédéric Poinsolet qui signe les dessins. Et puis, on sera aussi en plateau avec Jérôme Matos, membre de l'association Gaïa, qui est en charge de la gestion de cette salle de consommation, mais qui est en route et qui est coincé dans le métro, comme ça arrive. Donc, il arrivera tout à l'heure. Et en tout cas, on est déjà en ligne avec vous, Daniel Bader. Vous êtes présidente de l'association ITAC à Strasbourg, où une autre salle de ce type devrait ouvrir début novembre, tout début novembre. On n'a pas de date exacte, mais en tout cas, l'ouverture est certaine. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour et bienvenue. Je dirige ITAC, je ne la préside pas. Voilà, juste point
donc
d'information.
Vous êtes directrice, c'est-à-dire que c'est plus effectif que présidente, qui est un statut administratif.
Absolument.
Voilà, comme ça les choses sont claires.
Ce soir, nous avons choisi un sujet qui, malheureusement, est d'actualité et qu'il devient de plus en plus chaque jour, c'est la drogue. Mais la drogue en France. Car voyez-vous, jusqu'ici, on considérait que le problème de la drogue n'était pas un problème français, que la France était surtout un pays de transit et de transformation, et que la drogue, après, faisait ses ravages ailleurs, notamment aux États-Unis. Or, nous sommes en passe de devenir un pays de consommation. Je suis effrayé également de voir l'indifférence de l'opinion publique et l'ignorance de l'opinion publique française vis-à-vis de ce problème de la drogue.
C'est la voix de Jacques Salbert, on est en 1971, c'est une archive télévisuelle du Club de la Presse. À l'époque, on est même en juillet 1971, et il parle de la méconnaissance de l'opinion publique française et de l'idée qu'on a souvent cru, longtemps cru, que la France était exempte de ces problèmes de drogue. Vous avez l'impression, Daniel Bader, que c'est une prise de conscience qui arrive à ce moment-là, dans les années 70.
Si vous voulez, 1971, nous sommes à un an, même pas, du vote de la loi de décembre 1970, qui est une loi, qui est la loi qui régit encore aujourd'hui tout ce qui a trait à la consommation et aux soins liés aux substances psychoactives illicites. Hein. Donc on est à un moment donné où cette question émerge fortement en France. Pourquoi ? Puisqu'il y a une augmentation de la consommation d'héroïne, notamment à ce moment-là, qui touche particulièrement la jeunesse et la jeunesse des classes moyennes. Ce qu'on ne constatait pas ou ce qu'on constatait moins dans les années qui précédaient. Et du coup, il y a effectivement eu prise de conscience à ce moment-là, on va dire, de nos politiques, du problème qui était posé là. Hein ? Mais nous sommes aussi à 2 ans des événements de 68.
Oui,
donc une remise en cause d'un fonctionnement social qui est sclérosant, et voilà. Donc on est dans un contexte particulier dans ces années-là.
Il parle et il évoque l'idée d'une méconnaissance de l'opinion publique, de l'idée que la France serait aussi un pays de consommation. Est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de chemin a été fait en 45 ans ?
Du chemin a été fait beaucoup, je ne dirais pas cela comme ça. Si vous voulez, du chemin a été fait, mais on a bien vu au cours, en tout cas pour moi, de ces 20-25 dernières années, comment le balancier oscille perpétuellement entre l'idée qu'il faut soigner les personnes qui sont à un moment, qui se trouvent à un moment ou à un autre sous l'emprise d'une substance, et l'autre partie de, si vous voulez, de la course du balancier qui veut que ce qu'on les considère comme des délinquants et qu'il faut continuer à sévir et à les emprisonner. Donc du chemin a été fait, oui, parce qu'il y a une politique qui a été mise en place, notamment vous parliez de moindre risque, il y a évidemment des choses qui ont été faites, mais au niveau, je dirais, l'opinion publique, on est constamment en train d'osciller entre, encore une fois, ce sont des personnes qu'il faut aider ou ce sont des personnes qu'il faut punir. Et tout le débat autour des salles de consommation n'est jamais qu'une répétition de ce qu'on entend depuis 30 ans maintenant dans ce pays.
Et ce balancier, il se base, pour continuer d'utiliser une métaphore technique, sur une méconnaissance de ce que c'est que de la consommation toxicomane, de ce que c'est que du rapport au produit, de ce que c'est que de la dépendance ou du manque ?
À la fois sur une méconnaissance, je crois, réelle, même si depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années maintenant, il y a un réel effort d'explicitation qui est fait, mais aussi sur le fait que perdure la ségrégation et la stigmatisation des personnes qui consomment des drogues. Les usagers nous disent encore aujourd'hui, au mieux on nous ignore quand on nous voit dans la rue, au mieux, au pire on nous méprise. Mais nous n'existons pas. Ils se considèrent encore comme une sous-humanité, très forte, de façon très claire. Donc, parce qu'ils se vivent comme cela, ils se vivent comme ça. Le regard des autres, leur renvoie cet état-là. Donc, je crois qu'on a encore énormément de travail à faire, et c'est ce que mettent en avant les personnes qui promeuvent la réduction des risques, c'est de dire ce sont des personnes, ce sont des citoyens à part entière, ce sont des enfants de la cité, et il y a lieu de les traiter comme tels. Voilà.
Puisque vous parlez du regard des autres, c'est un regard des autres qui est aussi en adéquation avec, en tout cas, une partie du regard sociétal porté sur cette population-là, qui est une population qui est parfaitement hétérogène. On reviendra tout à l'heure sur la spécificité, peut-être, de la société française, justement, dans le regard porté à la population toxicomane. Comment expliquez-vous que ce soit si difficile à regarder, en tout cas pour une partie de la société ?
Alors, c'est curieux, votre question m'évoque ce que me disait un usager il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui me dit, c'est quelqu'un qui vit à la rue, qui vit avec ses chiens, qui n'a quasiment pas d'endroit où dormir, et qui me dit, moi madame, je suis un homme libre. Et c'est peut-être cette liberté-là, revendiquée, à la fois dans ce qu'on fait de sa vie, dans l'usage qu'on fait de son corps, et dans le refus d'une norme ou de normes qui ne sont pas celles admises, on va dire, par le plus grand nombre, qu'il y a une part de, peut-être, de crainte, hein, d'acceptation finalement de ce choix-là. Voilà. pourquoi. Et puis, il y a la peur que ça arrive que à ses enfants, à ses proches, enfin, je crois qu'on a affaire à un ensemble de phénomènes, c'est assez complexe à dénouer tout ça, mais je pense qu'il y a ces deux aspects-là. La peur que ça touche quelqu'un qui vous est proche, que vous aimez, et que ce quelqu'un glisse dans quelque chose d'inconnu et qu'on ne connaît pas et qu'on ne saura pas maîtriser, et ce que renvoie aussi le choix d'un certain nombre de personnes de n'absolument pas rentrer dans les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui.
Bonjour. Les seringues en vente libre dans les pharmacies. En prenant cette mesure, Michel Barzac veut éviter la propagation de la maladie chez les toxicomanes. Le ministre de la Santé lance une campagne nationale de lutte contre le sida.
Les toxicomanes aujourd'hui, 50 à 80% d'entre eux sont porteurs du virus sida. Donc non seulement ils se contaminent entre eux par les seringues, mais ensuite par contact sexuel, ils peuvent contaminer d'autres jeunes. Par conséquent, nous nous sommes trouvés face à la situation de vouloir protéger ce risque-là et en même temps de ne pas voir le risque de multiplier ou d'augmenter une facilité pour les toxicomanes de pouvoir trouver des seringues. L'ensemble des responsables que j'ai consultés unanimement m'ont dit que le risque de plus grande facilité pour la toxicomanie était très limitée, car de toute façon les toxicomanes se débrouillent pour se trouver des seringues souillées et infectées, mais par contre que le risque du sida était majeur. Et donc nous avons décidé que pendant un an, la vente des seringues en pharmacie serait libre sans contrôle d'identité.
Première réaction après la décision du ministre de la Santé de remettre les seringues en vente libre, celle du docteur Olivenstein, le spécialiste de la toxicomanie, estime que cette décision est courageuse mais tardive.
On entend la voix de Michel Barzac dans ce journal de France Inter en 1987 et qui revient sur cette étape assez forte justement dans la politique de réduction des risques, à savoir la mise en vente libre sans contrôle d'identité en pharmacie de seringues stériles. Pourquoi est-ce que c'est un point fort justement dans la mise en place de cette politique de réduction des risques, Daniel Bader?
Mais parce qu'enfin, on reconnaît qu'il y a un problème, que des gens meurent parce que nous n'avons, en termes de santé publique, rien mis en place pour éviter cela. Je vous rappelle que dans d'autres pays européens, les seringues étaient en vente libre depuis bien plus longtemps, les Pays-Bas notamment, et que à ce moment-là, la France était confrontée à une vraie catastrophe sanitaire. Je veux dire que ces jeunes gens mouraient. Et il y avait évidemment aussi ce qu'évoque Michel Barzac, le risque de contamination pour d'autres composantes de la société française. D'ailleurs, les usagers n'étaient pas dupes. Les premiers usagers fréquentant nos programmes de change de seringue nous disaient bien que s'ils n'étaient pas un vecteur potentiel de contamination pour le reste du corps social, on ne se serait pas intéressé à eux comme ça. Mais ça a été une décision fondamentale. Parce qu'à partir du moment où les usagers ont pu prendre la responsabilité eux-mêmes de ne plus se contaminer, hein, parce qu'ils n'étaient plus à devoir utiliser à 10 la même seringue, eh bien, ils s'en sont emparés. Et on a vu chuter de façon drastique les contaminations VIH au sein des personnes de la communauté, des personnes concernées. Ça a été, mais en 10 ans, ici à Strasbourg, on n'a plus de nouvelles contaminations chez les usagers de drogue. Bon, je pense qu'il y a un souci auquel on risque d'être confronté avec les personnes qui viennent d'Europe de l'Est. Mais en tout cas, chez les usagers ici, depuis 10 ans, on a limité de façon, encore une fois, drastique leur taux de contamination. Donc, et en mobilisant simplement, en donnant aux usagers la possibilité d'eux-mêmes prendre en charge effectivement ce qu'il en était de leur vie. Ça a été fondamental, cette décision.
Vincent Bernière, ce retour au milieu ou à la fin plutôt des années 80, il en est quand même question dans cette BD docu-fiction Le Château des Ruisseaux et ce climat de mortalité, hein, même avant de parler de la dépendance ou du produit, quand Jean est appelé pour intégrer ce Château des Ruisseaux, il il parle de la manière dont il a été choqué par la mort de camarades. Est-ce que vous diriez que c'est ce climat-là qui règne fin des années 80, début des années 90?
Ça va déjà mieux, hein. Ce qui a été dit est vrai. C'est vrai que la décision de Michel Barzac a été fondamentale. Moi, en tant qu'usager, par exemple, bon, j'ai commencé à consommer de l'héroïne par voie intraveineuse, je dirais, à la fin des années 80. Les seringues étaient déjà en vente libre et ça m'a évité pas forcément d'être contaminé par le VIH-Sida, mais ne serait-ce que l'hépatite ou des tas de maladies transmissibles par le sang. Non, je dirais que là, mon type de consommation de drogue intervient peut-être à la fin de la première grande épidémie de consommation d'héroïne en Europe. Ça a été un peu évoqué par les intervenants antécédents, mais disons que mes grands frères étaient un peu les premiers, ceux qui sont partis faire la route, les premiers rapatriements sanitaires de Katmandou, ça intervient un petit peu après votre première intervention, 72, 73, les premières morts par overdose, la grande épidémie, enfin je sais pas ce qu'en pensent les spécialistes, mais ça arrive à peu près à ce moment-là. Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on est déjà désabusés, c'est-à-dire que nous, on pense pas en consommant des drogues, qu'on va s'éclater, qu'on va connaître les paradis artificiels, qu'on va faire la route et
qu'on
va planer
avec les... C'est plus cette génération de Katmandou, justement.
Ouais, voilà, nous, c'est déjà... Bon, on sait très bien que voilà, l'héroïne, c'est mortifère. Disons que en tant que consommateur, on est un peu plus conscient de nos actes, en tout cas. Oui, mais les gens décèdent, ça, c'est sûr, de fait de consommation de produits frelatés, notamment. On entend moins parler de ça maintenant, parce que les gens sont aussi beaucoup plus substitués. Je suppose que vous allez aborder la question à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai qu'on meurt assez facilement de surdose dans ces années-là.
Quand on entend Daniel Bader dire que d'une certaine manière, de cette politique de santé-là, les consommateurs se sont fait les acteurs et se sont emparés de la possibilité, par exemple, de s'injecter avec moins de risques à l'égard du sida ou moins de risques à l'égard de l'hépatite, vous aviez l'impression que c'était un état d'esprit qui était partagé à ce moment-là ?
Ouais, j'étais jeune. Hein.
Oui, mais c'est justement, c'est intéressant, mais même
non,
pour les consommateurs
j'avais pas,
jeunes.
J'avais pas conscience de tout ça. Nous, quand on consommait des drogues, on shootait et on se disait qu'on était des grandes personnes, quoi. Voilà. Mais non, la mise en vente des seringues en vente libre, ça a été vraiment un pas primordial. Et ensuite, bon, moi, j'ai pas connu ça, mais la mise en place des programmes de substitution également. Moi, ça, franchement, quand je vous écoute tout à l'heure, et encore une fois, en tant qu'usager, punir les usagers de drogue ou les soigner, mais ça me paraît mais évident, quoi. Je ne comprends pas qu'on se pose la question. C'est hallucinant. Enfin, pour moi, et j'en suis, pardon de parler de ma petite personne, mais une preuve parmi d'autres, il faut soigner, aider les gens qui consomment des drogues. La consommation de drogue, c'est pas sexe, drogue et rock'n'roll, c'est une forme d'automédication de personnes qui sont mal dans leur peau, qui sont émotionnellement fragiles, qui ont connu peut-être des traumatismes dans leur vie antérieure, mais ce sont des gens qu'il faut aider et soigner, et surtout, enfin, les mettre en prison, ça change rien. Je trouve ça hallucinant, j'y pensais là en vous écoutant. Lors du débat des primaires, là, il y a pas longtemps, Juppé parlait d'ouvrir des places de prison. On en parle souvent. Les prisons sont surchargées et tout. Alors moi, je suis pas sociologue, j'ai pas les chiffres exacts. Peut-être que les intervenants spécialistes le savent, mais à mon époque, on parlait de 85-90% de gens qui sont incarcérés pour des raisons plus ou moins directement liées à l'usage des drogues, à l'usage de l'alcool.
Les chiffres sont encore très hauts de cette manière-là.
Ouais, donc ça veut dire que quoi, il y a 15% de criminels, peut-être de gens qui sont liés d'une façon ou d'une autre aux djihadistes, que sais-je, mais je veux dire, ça fait quand même du monde, quoi, qu'on pourrait soigner. Pas besoin de construire des prisons, Juppé, je veux dire, soignons les toxicomanes, ça valait beaucoup mieux, on va même détruire des prisons.
Vous voulez réagir, Daniel Bader ?
Oui, oui, je pense que vous avez absolument raison. Les usagers n'ont rien à faire en prison. Je voulais réagir sur un terme que vous avez employé aussi, qui était la question de la drogue mortifère. Oui, bien sûr, je pense que les usagers le savent. Mais ce que moi j'ai appris en travaillant avec eux au tout début, c'est que pour eux, ça n'était absolument pas un processus autodestructeur, mais au contraire, beaucoup d'entre eux nous disaient « ça m'aide à vivre ». Et je pense qu'à partir du moment où on intègre ça dans ce qu'on a à faire au quotidien, quand on accompagne les personnes qui arrivent dans nos structures ou nos dispositifs, on est dans un tout autre positionnement. C'est-à-dire la personne sait, elle a besoin à un moment donné de sa vie, de l'apport de cette substance, de l'apport de cet adjuvant chimique. Et il faut surtout ne pas retirer tout ça trop tôt. En exigeant d'elle qu'elle s'abstienne. Parce qu'on a quand même encore entendu ça à nouveau dans l'hémicycle quand il s'est agi des salles de consommation. Il faut les guérir, mais les guérir, les soigner, ça veut dire dans la tête de beaucoup de gens encore faire en sorte qu'ils arrêtent de consommer. Or ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'usagers fuient les structures de soins quand on commence à leur parler ou leur proposer uniquement ce type hein, de démarche. Donc je crois qu'il faut qu'on entende bien ça. Et à partir de là, évidemment, qu'il faut accompagner, qu'il faut soigner. Et surtout, les usagers n'ont rien à faire en prison. Rien. Mais rien. Surtout que très souvent, effectivement, ce sont peut-être pas de simples consommateurs, mais de petits usagers revendeurs. Et que, voilà, les grossistes à la tête des réseaux, on sait bien que, voilà, on a beaucoup de mal à très souvent mettre la main dessus.
Vincent Bernière, on entendait tout à l'heure dans la voix de Daniel Bader aussi, et à la suite peut-être des mots de Michel Barzac sur la difficulté à voir, on se posait la question de pourquoi ce regard social sur la toxicomanie, sur les personnes qui consomment des drogues. Est-ce que avec le temps, vous avez réussi à comprendre pourquoi est-ce que c'était si difficile à regarder ce phénomène-là, vous qui avez été d'un côté, puis être maintenant de l'autre côté, si on peut parler ainsi.
C'est difficile à comprendre, mais c'est vrai que, par exemple, l'une des conséquences du fait qu'on ne prend pas en charge les usagers de drogue, bon, ce qu'on appelle les gens bas seuil, par exemple, comme le punk à chien qu'évoquait votre interlocutrice, ça donne ça. Alors que c'est vrai qu'on ne va pas regarder tel ou tel type de chef d'entreprise qui roule peut-être avec une belle voiture, et lui, on ne va probablement pas le stigmatiser alors qu'il est à 3 grammes de cocaïne par jour. C'est ça, je veux dire, je ne sais pas ça. Pourquoi est-ce qu'en France, c'est comme ça? On est tout le temps en retard de plusieurs métros, que ce soit les questions de sexualité, de changement de sexe, de transition, d'usage des drogues, je sais pas, on est tout le temps en retard de 45 métros. Je saurais pas vraiment tellement le dire, mais quelqu'un qui s'injecte de l'héroïne, même si ça peut paraître un peu flippant, parce que, je veux dire, il y a des gens qui sont diabétiques, s'injectent aussi des produits par voie intraveineuse. Mais finalement, si on regarde les choses dans l'absolu, encore une fois, ça a été dit, je pense que ce sont des gens qui sont plutôt dans une démarche d'automédication. Alors c'est vrai que le type de soins qui s'administrent est peut-être relativement violent pour leur regard extérieur, mais finalement c'est rien. Enfin, je veux dire, il y a plein de sociétés où les toxicomanes, les usagers de drogue sont des gens relativement intégrés. Je veux dire, il n'y a pas seulement les consommateurs de rue, hein, dans les usagers de drogue.
Bonjour et bienvenue, puisqu'on parlait d'avoir des métros de retard, mais on parlait plutôt de la politique française à l'égard de la toxicomanie. Vous avez eu un métro de retard, mais c'était pas de votre faute. Alors vous êtes membre de l'association Gaïa, qui est en charge de la gestion de cette salle qui ouvre aujourd'hui à Paris. Jérôme Matos, peut-être pour un bref résumé des épisodes précédents, on est aussi en ligne avec Daniel Bader de l'association ITAC à Strasbourg. On a entendu une archive de 1971 de Jacques Salbert, où l'opinion publique petit à petit se sensibilisait avec l'idée que la France était aussi un pays de consommation, et notamment un pays où la jeunesse mourait parfois de sa consommation de drogue. Puis on a entendu une archive de Michel Barzac en 1987, au moment de la mise en vente libre des seringues en pharmacie sans contrôle d'identité. Et nous discutions à l'instant de la difficulté à expliquer le regard porté sur les personnes qui consomment de la drogue et ce qui en découle. Peut-être vous aussi qui faites partie de ces associations qui travaillent avec les toxicomanes, est-ce que vous réfléchissez à la manière dont la société regarde aujourd'hui ces personnes-là ?
Tout à fait, et on va parler particulièrement de la scène qui se trouve autour de la gare du Nord, l'endroit où on ouvre aujourd'hui une salle de consommation à moindre risque, où on voit un nombre important d'usagers de drogue. Nous, sur notre petite antenne mobile qu'on stationne dans ce quartier depuis une dizaine d'années, on voit 100, 150 personnes par après-midi qui viennent récupérer du matériel. Et du coup, l'image qu'en ont les riverains est vraiment très mauvaise, et on peut le comprendre. Voilà, c'est sûr que quand on habite dans ce quartier, c'est un espèce de balai incessant de personnes qui circulent. Mais voilà, c'est pour la plupart des personnes passent assez inaperçues. Il y en a quelques-unes qui sont un petit peu plus visibles, on va dire, parce que bruyant ou autre, mais la grande majorité passe absolument inaperçue. Et je pense que l'image aussi, c'est l'image qu'ils donnent eux-mêmes en abandonnant des seringues au sol, en s'introduisant dans les immeubles, etc. Tout ça aussi, ça contribue à cette mauvaise image qu'ils ont dans le quartier. Et c'est une des choses qu'on propose d'améliorer en ouvrant cette salle de consommation, c'est d'offrir un lieu où ils peuvent le faire. Donc sans être dans la rue et sans être à la vue des personnes, et aussi d'avoir un suivi, on va dire, entre les riverains et les usagers, de faire de la médiation pour s'assurer qu'à terme, il y ait moins de nuisances dans le quartier et que du coup, peut-être, ces personnes gagnent une meilleure image, on va dire, vis-à-vis des personnes du quartier.
Cette question de l'image de soi, c'est quelque chose qui revient énormément dans les groupes de parole de ce château des Ruisseaux, dont vous racontez le quotidien. Alors, ce sont évidemment des lieux extrêmement différents. Hein. Dans un cas, la salle de consommation à moindre risque, il est question de consommation. Alors, encadrée, regardée, avec hygiène. Dans le cas du château des Ruisseaux, il est question totalement d'abstinence. Dans ces groupes de parole, il a été énormément question de l'image de soi.
C'est sûr que ce qui est renvoyé par la société, c'est une piètre estime. Également, quand on consomme des drogues de façon régulière, hein, comme dépendant, il y a peu de chances pour que les problèmes que vous avez rencontrés peut-être par le passé dans votre vie s'améliorent en réalité. Ils font presque que s'empirer. Parallèlement, je peux parler que pour moi, mais il est rare que on aille forcément très loin dans la société, dans l'épanouissement personnel. Donc c'est vrai qu'une des révélations, si vous voulez, de l'arrêt des drogues, c'est le premier contact avec soi-même. Souvent, c'est pas très simple. D'autant que l'une des conséquences des usages de drogue, c'est quand même d'annihiler tout type d'émotion. Donc c'est très difficile d'intégrer de l'expérience.
C'est quelque chose qui revient énormément, le fait de être capable de mettre des mots sur l'émotion, être capable d'écrire des émotions, d'exprimer des émotions, voire à un moment donné dans un groupe de parole, on refuse à quelqu'un l'usage de l'argot parce que c'est une façon de masquer les émotions. C'est quand même très très fort la manière dont ça revient.
Ce modèle-là qui effectivement s'applique pas forcément à tout le monde, qu'on appelle le modèle Minnesota, est basé sur les groupes de parole, sur le travail, sur les émotions essentiellement. C'est tout un apprentissage de redécouverte de ces caractéristiques humaines qui nous permettent de vivre et de se développer. Maintenant, je suis pas certain que je pense que mon camarade en face de moi va sans doute acquiescer. Je suis pas certain que ce soit juste une question de consommer des drogues.
Non, je voulais juste faire la distinction, bien sûr qu'il ne s'agit pas, et on va y venir tout de suite. Je voulais juste faire la distinction que dans un cas, il n'était pas du tout possible de consommer au château des Ruisseaux. Et que c'était basé sur l'abstinence, que dans l'autre cas, il était possible de... C'est quand même une distinction assez importante.
Cela étant, on peut passer par la salle, comment vous appelez ça, de consommation à moindre risque. On peut passer par la salle de shoot avant d'aller au château des Ruisseaux. Hein.
Bien sûr.
C'est même souhaitable.
Évidemment. Est-ce qu'il y a, ou quelle est plutôt la place de la parole, Daniel Badar, et on viendra avec vous, José Matos, puisque dans cette salle qui va ouvrir, j'imagine que vous y avez aussi beaucoup réfléchi, la place de la parole dans ces salles-là?
Bien, écoutez, la place de la parole, elle est partout. Elle est promue dans l'ensemble des lieux, des dispositifs que pour notre part nous avons mis en place. Le tabou est tellement puissant de la société par rapport aux usagers de drogue, il faut bien qu'il y ait des lieux où quelque chose puisse se dire à un moment donné. Donc nous avons travaillé dès le départ avec des artistes, dès le départ avec Gatti qui était en résidence à Strasbourg, des théâtreux, des poètes, des peintres, des plasticiens. Et à Itap, il y a toujours eu des ateliers d'écriture, des ateliers plastiques pour les mots n'y suffisant pas, pour que des choses puissent se dire d'une autre manière. Parce qu'effectivement, je crois que l'usage au long cours de drogue fait en sorte que on perd finalement la capacité à dire. Je ne sais pas si c'est uniquement le travail sur les émotions, bien sûr, c'est extrêmement important, mais je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que quand on permet, on facilite le fait que des gens reprennent la parole d'une manière ou d'une autre, eh bien, ils sont éminemment surprenants. Et on se rend compte à quel point nous ne sommes pas différents les uns des autres. Et c'est ça, je crois, l'importance du travail qui est mené dans des lieux comme les nôtres. Alors, salle de consommation, structure de soins, délivrant de la méthadone, microstructure médicale chez les généralistes avec un travailleur social et un psychologue, c'est un dispositif que nous avons créé à Strasbourg et qui est en train de s'étendre dans le reste de la France. Tous les endroits auxquels nous avons considérés comme d'abord des espaces de parole. Tout simplement parce qu'il faut aussi que les soignants entendent ce que l'autre a à dire en face. Nous ne détenons pas le savoir, loin de là. L'expérience des drogues, nous ne l'avons pas très souvent. Et si nous nions à l'usager sa capacité à dire quelque chose et à ce que nous reconnaissions ce savoir-là, eh bien nous sommes à côté de la plaque. Donc bien sûr, et la SCMR sera un lieu de, je pense, de parole ou d'expression de quelque chose extrêmement important. C'est un des seuls endroits où vous avez où les usagers laissent accès à leur corps aussi. Pas uniquement à ce qu'ils donnent à voir d'eux-mêmes, hein. Quand ils vont injecter, eh bien, voilà, ils le font avec, en étant accompagnés par quelqu'un, mais en donnant accès à quelque chose de, quoi, d'une pratique intime. Voilà. Donc, on est constamment dans le souci que les choses puissent se dire, oui, et que les personnes fassent quelque chose après de se dire, bien sûr.
José Matos, vous faites la même, vous établissez la même réflexion. Toutes ces structures, qu'il s'agisse de structures mobiles établies pour le moment jusqu'à maintenant, hein, Gare du Nord, Hôpital de la Riboisière, tout ça dans le nord de Paris, 10e arrondissement, ou la future salle de consommation, c'est d'abord des espaces de parole ou ce sont aussi des espaces de parole?
Tout à fait. On va dire 60% des personnes qu'on reçoit aujourd'hui sont dans une situation de grande précarité. Et c'est des personnes qui sont assez rejetées, en fait. Rejetées par la société, rejetées par souvent leur famille, etc. Et qui tournent beaucoup autour du milieu de la consommation. Et du coup, ce qu'on cherche avant tout, c'est créer du lien avec ces personnes. Et donc le lien, ça passe par la parole. Donc ça, c'est sûr que c'est notre quotidien, en fait. C'est discuter avec ces personnes et discuter de choses avec qui... ils discutent peu de ça avec d'autres personnes, c'est-à-dire des pratiques, des consommations, de leurs problèmes de santé liés à ces consommations, parce qu'ils peuvent aller voir d'autres structures sociales, mais ils vont avoir du mal à exprimer leurs problèmes d'addiction et de consommation. Donc nous, on travaille beaucoup autour de ça, et c'est ce lien qu'on arrive à créer et qui sera plus fort encore dans la salle de consommation, puisque les personnes vont passer tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc le contact avec les équipes va devenir assez serré et important, et autour de ça, on pourra construire beaucoup de choses.
Et éventuellement, puisqu'on l'entendait aussi dans la voix de Vincent Bernier, éventuellement faire le relais avec d'autres structures, avec d'autres éventuellement prises en charge de soins ou prises en charge sociales, c'est aussi l'un des objectifs que d'être une sorte de point de parcours vers autre chose.
Oui, exactement, comme tous les programmes de réduction des risques, hein, que ce soit un programme d'échange de seringues, un centre où il y a des traitements de substitution, ou la salle de consommation, c'est un peu des passerelles en fait vers autre chose, quand les personnes le souhaitent. Donc c'est jamais nous qui allons pousser les personnes, mais on est à l'écoute, et dès que il y a une demande, un souhait qui est formulé, on accompagne les personnes. Donc vraiment, c'est un premier lien, un premier contact avec des équipes socio-médicales et une porte ouverte vers tout ce qui existe.
Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Just hold, get up and tell you where to go.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
En 2010, Roselyne Bachelot se dit favorable à une salle destinée aux toxicomanes. Ni utile, ni souhaitable, lui avait sèchement répondu le Premier ministre d'alors, François Fillon. Un clivage droite-droite qui perdure aujourd'hui entre les farouches opposants qui parlent d'apologie de la drogue et les partisans de la politique de réduction des risques sanitaires, telle Roselyne Bachelot, ou avant elle Michel Barzac, qui avait lancé la distribution de seringues stériles. On peut aussi citer les pragmatiques de droite, tels les maires de Bordeaux ou Marseille, qui voit dans ces lieux de consommation supervisée une forme de réduction des nuisances publiques, car toutes les études le prouvent, ces salles de shoot ont fait chuter les overdoses et infections des toxicomanes, sans augmenter ni le trafic, ni la délinquance. Interrogé pour sa part pendant la campagne de 2012, François Hollande avait promis de tester ce dispositif. À gauche, la question fait davantage consensus, mais elle reste difficile à assumer. Ainsi, quand Marisol Touraine obtient un feu vert de Jean-Marc Ayrault en 2013, Matignon met plusieurs jours à le reconnaître publiquement. Entre deux campagnes électorales, il faut dire que le calendrier politique n'est jamais vraiment le bon pour passer à l'acte. Et puis, suit l'épisode de la rédaction de l'article du projet de loi santé instaurant l'expérimentation de cette salle. Pas simple, il doit à la fois sécuriser le travail des intervenants en salle, tout en respectant la loi sur les stupéfiants. Et l'ouverture enfin dévoilée au tout dernier moment, comme s'il s'agissait toujours d'un tabou politique, un tabou que la France, dans toute ses contradictions, a tout de même décidé de rendre visible.
L'ouverture dévoilée au dernier moment dont parle ici Christine Monclas, c'est donc l'ouverture de cette salle aujourd'hui dans le 10e arrondissement à Paris en France. Christine Monclas qui suit ce dossier depuis un moment et de manière très précise pour la rédaction de France Culture. On entend ici l'idée d'un tabou politique. Vous iriez dans ce sens-là, José Matos, quelque chose qui est si tabou que la politique est extrêmement frileuse à passer à l'action, ce qui expliquerait éventuellement nos métros de retard dont parlait tout à l'heure Vincent Bernière.
Pour ce que j'ai vu sur l'ouverture en tout cas de la salle parisienne, il y a eu un fort soutien quand même de la mairie de Paris, de la mairie du 10e arrondissement, vraiment une vraie affichage politique, une volonté de mettre en place cette salle, donc affichée clairement et publiquement. Donc je pourrais pas vraiment dire ça. Après, c'est sûr qu'il y a des courants au niveau du gouvernement, au niveau des politiques en général, de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc. Et donc voilà, oui, il y a certains tabous, mais pas forcément à tous les niveaux.
Vous avez le sentiment, concernant par exemple l'échelle municipale, que ce soit à l'échelle de l'arrondissement ou à l'échelle de la ville, que le principal objectif était un objectif de santé, de réduction des risques liés à la santé, ou un objectif de réduction des nuisances, puisqu'on l'entendait, des nuisances urbaines et publiques telles qu'elles sont décrites?
C'est vraiment les deux, je pense, j'espère. Santé publique et tranquillité publique, mais c'est sûr que la tranquillité publique a sa place et qu'elle est importante dans ce projet.
Et pourtant, évidemment, la mobilisation de quelques riverains autour de cela soutenait l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut entendre dans les arguments qui pouvaient s'opposer à l'ouverture de telles salles dans le quartier du 10e ou dans d'autres quartiers d'ailleurs? Quelles étaient les craintes affichées?
Oui, la principale revendication, c'était pas une opposition farouche au projet lui-même, c'était pas en zone résidentielle, c'est-à-dire pas dans un endroit où il y a des habitants vraiment à proximité. En même temps, la Seine, elle est à la gare du Nord, et autour de la gare du Nord, il n'y a pas vraiment d'endroit où on aurait pu mettre une salle sans qu'il y ait des riverains vraiment à proximité. Ensuite, les craintes, c'est un développement de la criminalité, du deal, et puis des usagers supplémentaires qui viendraient s'ajouter à ceux qui sont déjà là. Voilà, c'est des craintes que moi, je peux comprendre. À nous, maintenant, de répondre à ça avec le temps et de démontrer que ça n'aura pas lieu et que ça apportera au contraire un mieux-être en fait pour les personnes qui habitent là.
Sachant que pour qui passe régulièrement dans ces endroits-là, des personnes s'injectant de la drogue dans la rue, des scènes de deal et des scènes d'échange de seringues ou d'autres matériels sont absolument monnaie courante et monnaie quotidienne. C'est-à-dire que ça existe déjà, c'est visible déjà. Donc d'une certaine manière, c'est finalement presque logique d'implanter une salle dans ces endroits-là. Ça a été conçu de cette manière-là?
Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de la mettre là où il y a entre guillemets un problème.
En tout cas, des scènes de consommation.
Voilà, exactement. Là où il y a une scène de consommation. Et je pense que partout en France, si d'autres salles ouvrent, il faut vraiment les implanter là où il y a des scènes de consommation. Si on l'avait implanté dans un autre quartier, peut-être quelques usagers y seraient allés, mais du coup, ça aurait amené un problème là où il n'existe pas forcément aujourd'hui. Et du coup, c'est moi, je trouve plus intéressant de régler le problème là où il se trouve. Et je pense que ça apportera une meilleure réponse.
Daniel Bader, c'est aussi dans cette logique que vous avez pensé l'implantation de la future salle à Strasbourg ?
Oui, à une différence près, c'est que nous n'avons pas de vraie scène ouverte à Strasbourg et qui est depuis 20 ans que je travaille là, il n'y en a quasiment jamais eu. Mais on a une consommation extrêmement diffuse sur l'ensemble de la ville, plus ciblée sur certains quartiers. Donc il est clair que la salle de consommation strasbourgeoise n'est pas très loin du quartier de la gare où on sait que c'est un quartier qui est concerné et par les consommations et par la prostitution et par voilà. Mais ce qui a été intéressant, pour ce qui nous concerne ici, c'est qu'on a travaillé par-delà les clivages habituels droite-gauche pour commencer, que d'entrée de jeu, le maire de Strasbourg s'est positionné en soutenant ce dispositif et en parlant comme un lieu de soins et ou d'accès aux soins possibles pour les usagers. Et il a positionné son implantation dans un espace hospitalier, tout comme Paris d'ailleurs. Et ça a permis effectivement qu'ensuite, on tienne finalement, qu'on informe et qu'on évoque ce lieu comme un lieu visant d'abord une action de santé publique. Alors les craintes sont évidemment là, de la même manière qu'à Paris, que ça crée des points de focalisation, de deal, que ça développe effectivement le trafic aux abords de la salle. Bon, je pense que là aussi, je suis d'accord avec José, on a effectivement à nous à veiller à ce que ça ne soit pas le cas. Mais c'est extrêmement intéressant quand vous arrivez à travailler avec des partenaires qui, par-delà, le combat politique qui les oppose habituellement, au niveau de la municipalité notamment, arrivent à travailler en consensus autour d'un projet de santé publique. Nous, on a vraiment eu un soutien fort à ce niveau-là et un soutien fort très clairement de la ville. Bon, il faut dire que le maire adjoint à la santé est un médecin et que ça aide.
Vincent Bernière, vous parliez tout à l'heure de cette époque de consommation. Vous disiez, nous, on était jeunes et on pensait pas spécialement à toutes ces politiques de réduction de risque. Il se trouve que, en tout cas, pour peut-être un double fictif que vous mettez en scène dans le Château des Ruisseaux, c'est exactement ce quartier-là, ce quartier de Barbès, de la Riboisière, de la Gare du Nord. Quel regard vous portez, bien des années plus tard et votre vie ayant changé, sur l'ouverture d'une salle de consommation à moindre risque ?
Très positif. Moi, encore une fois, je pense que ce sont des gens, les usagers de drogue, et particulièrement ceux-là, sont des gens qu'il faut absolument aider, quoi. Il y a presque non-assistance à personne en danger. Je veux dire, c'est des citoyens comme nous, comme vous, ils ont des droits et ils ont droit à l'accès aux soins. Je crois que même si, effectivement, vous insistez sur le fait qu'on était relativement inconscient, je suis pas certain non plus que...
C'est pas moi qui l'ai dit, hein.
Mais c'est vrai. Mais d'autant plus... Je veux dire, c'est aussi à l'État parfois de jouer son rôle paternaliste, aux politiques, etc. Et je suis quand même aussi un exemple. Pour le coup, j'ai l'expérience de l'usage de drogue, l'expérience aussi du non-usage. Mais je veux dire que sans les politiques publiques, je serais pas là pour vous parler. Déjà, je serais malade. Et Michel Barzac, donc en 87, avec le programme d'échange de seringues, ça a été un pas important. Les distributions de programmes de substitution, qu'elle malheureusement à l'époque, j'ai pas pu avoir accès à mon grand désespoir, mais l'ouverture en tout cas de ce qu'on appelle le Château des Ruisseaux, maintenant qui est une association, je crois, gérée par une nouvelle association qui s'appelle Aurore, a pu s'ouvrir que sous l'impulsion de Georgina Dufoy. Alors c'est vrai que j'entends bien que les associations de réduction des risques doivent travailler avec tous les politiques, mais c'est vrai qu'il y a certaines fenêtres quand même qui semblent plus ouvrables. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les spécialistes, encore une fois, mais Georgina Dufoy, merci madame, quoi.
On dit, quand vous dites, vous semblez décrire une population très spécifique que viseraient ces salles de consommation, et c'est en effet souvent de cela qu'on parle. On parle d'une population de 600 à 800 personnes, par exemple, pour Paris. De qui s'agit-il et pourquoi est-ce que c'est une partie des consommateurs dont on parle ?
Alors, Vincent Bernard. Là, je pense que José va être plus pointu que moi sur le type de population. Moi, ce que je représentais un petit peu à mon niveau, c'est une forme un peu de touriste de la drogue qui venait plutôt des banlieues aisées ou des classes moyennes. Mais José l'a évoqué tout à l'heure en disant qu'il y en avait 150 qu'on voyait à peu près faire partie éventuellement de la scène ouverte, vivre là, dormir là ou à Saint-Denis.
Vous étiez de passage.
Voilà, à cette nous on venait là pour acheter du produit et se l'injecter effectivement sur place. Mais je crois qu'il y a une chose juste que je voulais ajouter, puis après j'en aurais peut-être terminé, je ne sais pas, mais le parcours d'un toxicomane, au bout d'un certain temps, c'est d'aller de rencontrer des professionnels. Hein, parce que sans ça, alors il y en a peut-être qui sont complètement marginalisés du début jusqu'à la fin, mais je veux dire d'une façon un peu naturelle, on se retrouve quand même assez souvent devant des psychiatres, devant des médecins, ne serait-ce que pour la délivrance de tel ou tel produit. On commence un petit peu à... Je me souviens, le service du professeur Lou à Saint-Anne. Ça veut dire que le parcours de l'usager de drogue, il est quand même comme ça...
Ponctué
ouais, par les rencontres avec les professionnels. Et à titre personnel, encore une fois, c'est ça qui m'a sauvé. Tout seul, on peut pas faire grand chose hein, contre un tel problème.
Quand on parle d'une population spécifique, donc pas exactement les je cite touristes de la drogue que pouvaient représenter Vincent Bernière et d'autres qui n'étaient que de passage sur cette scène de consommation du nord de Paris, c'est qui ces centaines de personnes qu'on désigne comme étant les potentiels utilisateurs de la salle de consommation, José Matos?
Ben, pour la salle parisienne, c'est essentiellement des personnes qui sont sans domicile ou qui vivent dans des squats, en hôtel social de temps en temps quand ils peuvent. Donc c'est des personnes qui fréquentent vraiment au quotidien cette scène et qui n'ont pas d'endroit à eux pour consommer. C'est-à-dire que la plupart des touristes, comme tu disais, c'est des personnes qui vont passer, venir acheter du produit, récupérer du matériel, par exemple à notre camionnette, mais qui bien souvent vont retourner dans leur lieu de vie ou consommer,
tout à fait quand même, hein.
consommer sur place
rapidement.
On avait les sanisettes à 2 francs mis en place par la mairie de Paris. Hein. Mais c'était ça, les sanisettes ou les cages d'immeubles. Non, parce qu'on consomme quand même sur place, José. Hein.
Mais là, la différence, c'est que les sanisettes sont gratuites.
Voilà. Mais on ira. Je serais allé dans la salle de shoot, hein, probablement.
Pourquoi vous seriez allé dans la salle de shoot?
Parce que c'est quand même plus tranquille, on a du matériel de bonne qualité. C'est pas évident de s'injecter des drogues dans des cafés où il faut aller voler sa cuillère, acheter un citron à telle épicerie. Enfin, c'est quand même. Je pense que ça m'aurait aussi intéressé, effectivement, comme ça a été évoqué par Madame Bader, d'ouvrir la parole, de peut-être dialoguer avec des gens, de parler quoi de son problème. Quand on est en général, quand on est usager de drogue, on parle jamais de son problème de drogue, on parle toujours d'autre chose. Et puis avec les consommateurs, on parle de est-ce qu'il y a du produit, est-ce qu'il y a pas de produit, c'est combien, tu l'as vu. Enfin, je veux dire, on parle jamais de
soi en fait.
Ouais, on parle jamais de soi. Ouais.
Quand vous parlez de ceux qui donc sont amenés à venir dans cette salle-là, leur bénéfice et l'idée qui les ferait venir, c'est donc plus de confort, plus de sécurité à la consommation.
Exactement, du confort. Voilà, c'est quand même plus intéressant de consommer dans un lieu qui est spacieux, qui est lumineux, qui est calme, que dans des toilettes ou dans un parking. On n'est pas à la vue de tout le monde. Les passants vont pas juste passer. Voilà, dans un parking, il y a des clients qui passent. La police qui est en permanence présente dans le quartier et qui ouvre même les portes des toilettes quand ils soupçonnent qu'il y a des personnes qui consomment à l'intérieur. Donc tout ça, les personnes qui viendront consommer dans la salle seront beaucoup plus tranquilles, moins stressées et pourront plus s'approprier les messages de réduction des risques que l'on donne. Par exemple, se laver les mains, tout simplement, avant de consommer. C'est pas grand-chose, mais c'est super important si on veut préserver sa santé et son capital veineux.
On parlait de populations qui resteraient de toute façon marginalisées. Je sais que quand on vous a eu au téléphone, Vincent Bernière et Kinès Duperron vous a invité, vous avez dit faut quand même rappeler que quand on est en manque, 200 mètres, c'est vraiment très très loin. Comment peut-être penser à des personnes qui seront à plus de 400 mètres, en tout cas qui ne seront pas directement dans le quartier à la fois de cette scène de consommation, José Matos, mais aussi de cette salle de consommation?
C'est sûr que...
S'il y a une salle à Paris...
Tout à fait. Voilà, c'est sûr que des personnes qui vont acheter des produits à distance de cette salle, peut-être viendront consommer, mais là tout de suite, quand ils vont acheter le produit, il se peut qu'ils le consomment rapidement à proximité de là où ils se le procurent. Et a priori, la présence policière sera renforcée autour de la salle pour éviter justement qu'il y ait du deal. Parce que ça mettrait en danger le dispositif. Donc il faut que les personnes qui aient sur elles de quoi consommer pour leur simple usage puissent passer, mais que les personnes qui ont des grandes quantités soient éloignées du site. Donc voilà, on prétend pas une seule salle en Île-de-France. C'est sûr que c'est une expérimentation, mais c'est pas suffisant. Il en faudrait plus sur d'autres scènes, parce qu'il y en a d'autres en Île-de-France.
Quel genre de partenariat rapidement, Daniel Bader, avec les forces de l'ordre en termes de contrôle, en termes de sécurité aux abords de la future salle de Strasbourg ?
Un partenariat qui est en train de prendre corps, de s'élaborer. On a eu pas mal de rencontres, effectivement, oui, avec le procureur et avec les forces de police, qui entendent bien que dans la mesure où ce dispositif est inscrit dans la loi maintenant, il faut qu'il puisse vivre, exister et réussir. On est dans le cadre d'une expérimentation, je le rappelle quand même, hein, on a 6 ans pour faire la preuve sur 2 salles que ces dispositifs sont opérants, alors qu'il y a une littérature incroyable à l'international qui prouve qu'effectivement ces dispositifs sont apportent une plus-value en termes de bon bref. Mais donc nous sommes en train de travailler vraiment très régulièrement avec la police notamment pour que les usagers puissent arriver tranquillement dans ce lieu, ne soient pas contrôlés aux abords de la salle et puissent également repartir sans être inquiétés. Et je crois que les deux procureurs, le procureur de Paris, le procureur de Strasbourg, ont bien conscience qu'il faut quand même faire en sorte que ces expérimentations réussissent. Maintenant, je pense que l'affaire ne va pas se jouer juste là, en amont. Je pense qu'il va falloir que dans les premières semaines et les premiers mois, on négocie, on continue de travailler ensemble et de négocier pour que les personnes puissent venir effectivement, tranquillement, comme le disait José, dans ces lieux. Parce que la première chose que les usagers ici nous disent, c'est on ne viendra pas parce qu'on sera fiché, parce qu'on sera réparé et parce qu'il y aura des contrôles policiers. Donc si effectivement on veut faire en sorte que certains lèvent cette crainte-là, que cette crainte pour certains plutôt soit levée, il faut qu'ils puissent venir effectivement, encore une fois, tranquillement.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richaud.
14h52 sur France Culture, c'est l'heure de cette rubrique qui s'appelle 5 fois et qui propose à quelqu'un de s'emparer de notre thème de la semaine et de proposer 5 récits subjectifs en lien. On écoutera jusqu'à vendredi Jean-Charles Hu, réalisateur. Il nous parle aujourd'hui d'un de ses premiers voyages à Tijuana au Mexique.
Tout ça, ça remonte à peu près il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à aller au Mexique, particulièrement à Tijuana, à la frontière. J'étais à l'époque en train de réaliser ce qui allait devenir un premier long métrage, donc qui s'appelle Carne Viva. J'étais là dans le quartier qu'on appelle la Zona Norte ou la Coahuila, qui est le quartier zone rouge, chaud, bar, bordel de Tijuana. Vente de drogue, bien sûr. Je suis là avec mes acteurs, acteur du cru, quoi. Et là, je repère ce jour-là, je m'en souviens, une fille assez étrange, assez joli visage. Elle était enceinte. Elle marchait, quand je dis qu'elle marchait, ouais, elle flottait, quoi. Voilà, elle avait cette démarche qu'on peut assimiler peut-être à quelqu'un qui aurait pris éventuellement quelque chose, une drogue ou autre chose. Et elle avait son visage tourné vers le ciel. En essayant de discuter avec elle, j'en souviens avec une de mes actrices, elle répondait une espèce d'anglais très étrange, quoi. Elle parlait, un américain. Visiblement, elle avait été déportée des US, mais son américain était très étrange. Et puis surtout, elle répondait pas à nos questions du tout, quoi. Je l'ai recroisée dans la rue une ou deux fois, en compagnie d'un mec qui était visiblement son petit copain à ce moment-là. Et qui, lui, était un peu tout le contraire. Quand je l'appelais El Tuerto, c'était le borgne, quoi. Le mec, il avait un chapeau, un patch sur l'œil noir. Donc, il devait être borgne, certainement. Et puis, il avait une toute petite guitare, une espèce de ukulélé. Et il faisait la manche dans les bars. Et à chaque fois qu'on lui donnait pas une pièce, il hurlait sur les gens en lui disant « Allez au diable !» Donc, c'était un peu le couple un peu impossible, comme ça, entre elle, qui était très blanche, très lunaire, et lui, assez sombre. Et puis alors ça, c'était au début de mon séjour, quand je commençais à filmer. Je les recroise à la fin de mon séjour. Ce qui m'a un peu choqué, on était quand même 3 mois et demi, pas loin de 4 mois plus tard. Son ventre n'avait ni enflé, ni réduit, quoi. Donc je trouvais ça bizarre. Et là, des gens ont commencé à me parler d'elle en me disant, ouais, cette fille, en fait, ça se trouve, elle est enceinte. parce que le mec qui l'accompagne a un côté diabolique, c'est peut-être un démon, c'est peut-être le diable lui-même. D'ailleurs, ils sont arrivés dans Tijuana en 2007 quand ils commençaient à couper les têtes, enfin le narcotrafic là. Et pourquoi pas, selon une prostituée, elle me disait, ça se trouve ce mec, c'est le diable, et puis il veut enfanter ici à Tijuana l'antéchrist. Et il a trouvé une femme comme elle, qui a un côté pur, comme ça, lunaire. Et comme elle sait que c'est le diable qui l'aurait mise enceinte, elle aurait refusé d'accoucher de cet enfant. 3 ans plus tard, j'ai fini par la retrouver, mais elle avait totalement plongé, recouverte de crasse. Et elle était en train de fouiller des poubelles. J'ai essayé de lui apporter quelque chose, je lui ai donné un peu de sous, etc. Je lui ai offert un t-shirt propre, etc. Mais c'était impossible de communiquer avec elle. Et j'ai appris quelques temps plus tard encore, 2 ans après, par le L12, que j'ai fini par retrouver lui-même, mais qui n'était pas le diable apparemment, qui m'avait dit que cette fille était morte depuis peu et qu'elle s'appelait Roxana. J'ai découvert aussi en venant souvent à Tijuana qu'il y avait d'autres femmes comme elle, qui avaient cette faculté à être entre le ciel et la terre, et qu'en fait c'était pour la plupart toutes des anciennes prostituées, et qui étaient tombées dans le cristal. Le cristal à fond, comme toutes les prostituées là-bas, mais qui mélangeait à l'alcool bas de gamme, qui est un peu comme le cristal, c'est-à-dire c'est un alcool qui est fabriqué totalement chimiquement, qui n'a rien à voir avec de la tequila ou autre chose, vous mange les neurones en fait. Et donc il y a un certain nombre de femmes comme ça, que j'appelle les dames blanches, qui sont un peu des femmes, des spectres, des fantômes. Les gens paraissent à peine les voir, et elles semblent à peine apercevoir ce qui les entoure. Mais elle continue à hanter cette zone de la zone Anorte où avant elle travaillait comme prostituée. Elles n'ont plus de contact finalement avec la vie, quoi. Elles sont entre ciel et terre, quoi.
Tu m'excuseras, mignonne, d'avoir pas pu marcher derrière les couronnes de tes amis branchés. Parce que ton dealer était peut-être là, parmi ces gens en pleurs qui parlaient que de toi, en regardant leur montre, en se plaignant du froid, en assumant la honte de t'avoir poussé là. Petite conne, tu leur en veux même pas, tu sais que ces charognes sont bien plus morts que toi. Tu fréquentais un monde d'imbéciles mondains, où cette poudre immonde se consomme au matin. Le fric autorise à se croire à l'abri, et de la cour d'assises et de notre mépris, que ton triste univers nous inspirait malin, en sirotant nos bières ou en fumant nos joints. Petite conne, tu rêvais de Byzance, mais c'était la Pologne jusque dans tes silences. Je sais pas aussi, tu me pardonnes, j'ai pas chialé quand t'as cassé ta pipe d'opium. J'ai pensé à l'enfer d'un téléphone qui crie pour réveiller ta mère au milieu de la nuit. J'aurais voulu lui dire que c'était pas ta faute, qu'à pas vouloir vieillir, on meurt avant les autres. Petite conne, tu voulais.
Petite conne de Renaud pour terminer cette première émission de notre chantier thématique sur la drogue. Merci beaucoup José Matos d'avoir été avec nous. On peut renvoyer sur le site de gaia-paris.fr pour avoir plus d'informations sur toute l'action de l'association Gaia et puis sur cette salle de consommation à moindre risque qui ouvre aujourd'hui à Paris. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Vincent Bernière, on peut lire votre bande dessinée, très belle bande dessinée. C'est co-signé avec Frédéric Poinsolet qui dessine et aux couleurs. Elles sont très belles les couleurs. Voilà. Le Château des Ruisseaux, c'est dans la collection Air Libre aux éditions Dupuis. Et puis, vous nous tiendrez au courant, Daniel Bader, de l'ouverture à Strasbourg d'une future salle. Et on peut évidemment se renseigner sur toutes les activités de l'association ITAC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone. Début novembre.
Voilà. Au revoir, merci à vous.
Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut continuer de discuter sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Vous pouvez réécouter cette émission autant que vous voudrez toute la vie sur franceculture.fr et la podcaster, au moins pendant un an, si mes souvenirs sont bons. Un grand merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Aux manettes aujourd'hui, c'était Jean-Guilain Neige, Véronique Villa la réalise, Sophie Guéroux au droit d'auteur, dans un instant Mathieu Garrigou-Lagrange.